Hélène Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. Emmanuel Macron à l'aube de la présidence française de l'Union européenne. On va décrypter la conférence de presse du chef de l'État cet après-midi, la deuxième seulement du quinquennat. Il a été question d'Europe, évidemment. Le chef de l'État la veut puissante, souveraine, priorité détaillée sur le numérique, les frontières, l'emploi. Et il entend mener cette bataille malgré la campagne présidentielle française à venir. Président jusqu'au dernier quart d'heure, dit-il. Dans l'actualité encore, l'ancien champion olympique Yannick Agnel en garde à vue après la plainte d'une jeune fille qui l'accuse de viol. Le plan du gouvernement face à la flambée des prix de l'électricité, plan en urgence. Et puis la mort de Maryse Wolinski, romancière, veuve de Georges Wolinski, tuée dans l'attentat de Charlie Hebdo. Elle avait 78 ans. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien ce soir, on numérote les abattis de la gauche. Depuis la proposition choc d'Anne Hidalgo hier, une candidature commune pour éviter le naufrage, ça rame encore. On essaiera de voir quelle chance il reste à la gauche d'exister dans cette campagne, s'il faut l'enjamber, même cette présidentielle. Vos questions, nous les attendons, elles sont déjà là et c'est tant mieux, au 01 45 24 7000.
France Inter. Il a donc tenu la tribune pendant plus de deux heures pour sa deuxième conférence de presse à quelques semaines du début de la présidence française de l'Union européenne. On va détailler les priorités d'Emmanuel Macron pour les 27, mais avant cela, bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
Il a été un peu question de politique intérieure. Emmanuel Macron assume de cumuler son éventuelle future campagne et la présidence de l'Union européenne.
Eh oui, car ce n'est pas nous qui avons choisi le calendrier, se défend le président, alors que ses adversaires l'accusent de se servir de l'Europe comme d'un tremplin pour sa réélection.
Le mandat que m'ont confié les Françaises et les Français, je l'exercerai jusqu'au dernier quart d'heure. Dites-moi la date à laquelle il faut s'arrêter de travailler démocratiquement. C'est la fin du mandat. Et donc je travaillerai jusqu'à la fin du mandat.
Un chef de l'État au travail, bien loin des batailles politiciennes. En réalité, évidemment que l'Europe est un marqueur fort pour Emmanuel Macron, grâce auquel il compte bien se distinguer de ses concurrents en 2022. Et d'ailleurs, la présidentielle n'est jamais bien loin. Quand on lui pose la question de sa candidature, il répond d'abord par l'humour.
D'abord, je le prends comme un signe d'affection, un désir caché, presque un appel.
Avant de se faire beaucoup plus grave.
Quand les vents mauvais reviennent. Le rôle de nos institutions est de tenir le pays là où il doit être. Ne rien concéder, ni au racisme, ni à l'antisémitisme, ni à la remise en cause de nos valeurs, ni à la manipulation de notre histoire. C'est à nos institutions de le faire, avec calme et autorité.
Cette position d'autorité, ce piédestal dont Emmanuel Macron n'a pas l'intention de descendre de sitôt, et pour cause, elle lui permet tout à la fois de rester confortablement au-dessus de la mêlée, tout en répondant très clairement, on vient de l'entendre, à ses opposants.
Simon Le Baron en direct de l'Élysée avec Martin Troadec, merci à tous les deux. Et je me tourne vers vous, Franck Madvon, de la rédaction internationale, bonsoir.
Bonsoir Hélène.
Parce qu'il était aussi et surtout question de politique européenne dans cette conférence de presse, et le chef de l'État a défendu l'idée d'une Europe puissante et souveraine.
Oui, c'est un des refrains de la diplomatie d'Emmanuel Macron, l'Europe souveraine, unie, capable de s'affirmer face à d'autres blocs, Chine, États-Unis, Russie. Pour le président français, il s'agit d'abord de protéger les frontières de l'UE. Il entend réformer l'espace Schengen, mettre en place des réunions ministérielles pour renforcer les contrôles. Et il propose en parallèle un mécanisme de soutien aux pays confrontés à des crises migratoires, Pologne ou Lituanie cet automne, face à l'afflux de réfugiés venus de Biélorussie. Autre priorité d'Emmanuel Macron, et ce n'est pas nouveau, avancer sur l'Europe de la défense, revoir la relation avec l'Afrique. Un sommet UE-Afrique aura lieu en février. Le chef de l'État insiste aussi sur le climat, accompagner les réformes déjà lancées, comme la taxation carbone aux frontières. Emmanuel Macron s'est enfin attardé sur les valeurs européennes, ce qui unit les 27, la défense de l'État de droit. Il propose un service civique européen de 6 mois pour les moins de 25 ans. Mais on le rappelle, Hélène, la France va présider le Conseil de l'UE dont le but est de bâtir des compromis et non de mettre en avant des priorités nationales.
Franck Madvon, pour ses priorités du président de la République pour cette présidence française, Emmanuel Macron, qui a dit vouloir une Europe qui crée des emplois, avancer aussi vers un salaire minimum décent dans les pays de l'Union, développer des filières industrielles, hydrogène, semi-conducteurs, assez ressemblant finalement avec le plan France 2030. Emmanuel Macron interrogé aussi sur un éventuel boycott diplomatique des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin. Son ministre de l'Éducation et des Sports, Jean-Michel Blanquer, s'était un peu trop avancé ce matin. Voici la réponse ce soir du chef de l'État.
Moi, je préfère qu'on travaille avec le Comité international olympique
pour évidemment que les chartes de protection des athlètes, compte tenu de ce qui s'est passé ces dernières semaines, soient maintenues et pour que véritablement on aide à faire ce travail avec la Chine pour que tous les athlètes soient protégés, pour que les règles de l'olympisme partout à travers le monde soient promues. Ensuite, on appréciera l'évolution de la situation en lien avec les autres Européens et avec le CIO, mais je pense qu'il ne faut pas politiser ce sujet, surtout quand c'est pour prendre des mesures toutes petites et symboliques. Il faut être clair. Soit on dit on fait un boycott complet, on n'envoie pas d'athlètes, soit on dit on essaie de réengager les choses et d'avoir une action utile. Comme toujours à l'international, je suis plutôt pour faire des choses qui ont un effet utile.
Pas très tendre. En revanche, Emmanuel Macron, sur les relations avec la Grande-Bretagne, elles sont difficiles, dit-il, parce que le gouvernement britannique ne fait pas ce qu'il dit. La journée de demain s'annonce encore tendue, d'ailleurs, dans le dossier de la pêche. L'Union européenne avait donné jusqu'au 10 décembre, donc demain, aux deux pays pour trouver une solution. Mais ce soir, les Britanniques l'annoncent. Ils n'ont que faire de cette échéance, alors que les Français attendent encore une centaine de licences pour ces pêches, pour leurs pêcheurs. Loïc Guélec est à Saint-Malo auprès d'un pêcheur classé sur la liste rouge des autorités de Jersey et qui n'y croit plus.
Pour Pierre Vogel, il est impossible de pêcher en plongée la coquille Saint-Jacques sur le plateau des Minquiers, situé dans les eaux de Jersey. Le Welga, un petit bateau de 7 mètres de long, est à quai depuis plus d'un mois. Pierre Vogel a pourtant pu prouver une antériorité de pêche sur la zone, des documents demandés par les autorités de Jersey, mais c'est insuffisant.
On ne veut pas nous donner d'autres licences par manque de preuves. On n'a pas pu leur donner de preuves de géolocalisation, par exemple.
Alors pour les jeunes pêcheurs trentenaires qui se sont lancés l'an dernier, c'est un coup dur. Julien Camus, l'associé.
On a toute la filière en circuit court derrière, tant que ce soit par les particuliers, les restaurateurs. Il faut juste nous laisser pêcher. Nous, on va s'arranger avec les fenêtres météo, mais il nous faut une solution pour faire perdurer le truc. Ouais.
Et Gaëtan Loiseau, le matelot, trouve le temps plutôt long.
On a le bateau qui est là, on tourne en rond en fait. On ne peut pas aller pêcher, c'est notre métier, c'est ce qu'on aime faire. Et là, on ne peut pas le faire. C'est hyper frustrant.
L'ultimatum lancé par le gouvernement. Le gouvernement français ne les convainc pas alors qu'un délai d'un an avait été donné pour mener à bien les négociations post-Brexit avec le Royaume-Uni. Mais il ne s'est rien passé, déplore Pierre Vogel.
On n'y croit plus, c'est du blabla tout ça. Moi je ne crois plus au président, je ne crois plus à Annick Girardin. Maintenant il nous faut que ça bouge. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va être encore obligé de taper du poing sur la table, faire des blocages pour qu'ils comprennent que ça urge.
Des pêcheurs qui ne font plus confiance à Bruxelles et qui aimeraient récupérer le contrôle de leur avenir.
Reportage France Bleu Armorique signé Loïc Guélec et tout ce qu'il faut retenir de la conférence de presse d'Emmanuel Macron est à retrouver sur franceinter.fr. La campagne présidentielle à la télévision ce soir sur France 2. Éric Zemmour se plie à l'exercice de la grande émission politique et il débattra avec le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Et puis après les violences du meeting de dimanche à Villepinte et dans un contexte de pré-campagne présidentielle parfois tendue, 19 directrices et directeurs d'information de presse écrite, de télévision et de radio, dont Radio France, appellent aujourd'hui les candidat à la responsabilité. Les signataires de la tribune rappellent la nécessité impérieuse de pouvoir informer dans des conditions de sécurité élémentaires.
Et à 19h09, le double champion olympique Yannick Agnel est en garde à vue.
Le nageur de 29 ans a été arrêté aujourd'hui à Paris, entendu pour des faits de viol et d'agression sexuelle présumée. Bonsoir Emmanuel Leclerc.
Bonsoir.
Sur une jeune fille de 13 ans qui a déposé plainte à Mulhouse l'été dernier.
Oui, ce sont des policiers de l'Office central de répression des violences aux personnes qui sont allées chercher l'ancien double champion olympique de natation dans le 8e arrondissement de la capitale ce matin. Il a été aussitôt transféré dans le Haut-Rhin. Cela fait effectivement plus de 4 mois que la police judiciaire à Mulhouse et l'office central à Nanterre enquêtent sur cette affaire. Et on sait de sources proches du dossier ce soir que la jeune femme qui est venue porter plainte l'été dernier n'est autre que la fille de l'ancien entraîneur de Yannick Agnel, Lionel Horter, dont lui-même et des proches sont par ailleurs au cœur d'un scandale financier pour la gestion de la piscine olympique de Mulhouse. La jeune femme avait 13 ans à l'époque des faits, dont elle a dit sur procès-verbal avoir été victime en 2016. Cet après-midi, la procureure du Haut-Rhin, Edwige Roux-Morizot, a confirmé que l'ancien nageur a bien été placé en garde à vue sur commission rogatoire d'un juge d'instruction pour viol et agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans.
Emmanuel Leclerc, enquête ouverte aussi à l'encontre de l'ancien chroniqueur de Canal+, Pierre Ménès, mis en cause par une hôtesse du Parc des Princes pour des gestes déplacés commis lors d'un match le 20 novembre dernier. Il a été placé en garde à vue. Et puis c'est un non-lieu qui vient d'être prononcé en faveur du cinéaste Luc Besson, accusé de viol par une actrice depuis 3 ans après un rendez-vous rendez-vous dans un palace parisien. L'avocat de l'actrice va faire appel. La facture d'électricité risque de continuer à monter, mais le gouvernement a un plan, parce que limiter la hausse des prix à 4% en février prochain ne suffira pas sur le long terme. La flambée est trop forte et elle devrait s'étaler dans le temps. Delphine Simon, le gouvernement cherche donc le moyen de protéger le consommateur d'un rattrapage trop salé.
Oui, la flambée des prix est telle sur les marchés de gros, plus 50 euros en quelques jours. Le prix du mégawattheure atteint les 200 euros, c'est du jamais vu. La compenser va coûter cher au budget de l'État et l'exécutif n'est pas sûr de pouvoir respecter sa promesse de bouclier tarifaire. Il va donc geler le tarif réglementé de l'électricité, le tarif bleu d'EDF. Chaque année, ce TRV est augmenté selon une formule de calcul légale. Le gouvernement se réserve le droit de ne pas appliquer cette formule. C'est ce que prévoit l'amendement déposé à la mi-journée. Il sera débattu demain dans le cadre du budget 2022. Mais attention, il va falloir rattraper en 2023 car il est interdit de vendre à perte. Un rattrapage qui pourrait se répercuter sur la facture avec un an de décalage. Pour l'éviter, l'exécutif a deux solutions. Permettre à EDF de vendre plus d'énergie nucléaire à ses concurrents, mais il faut l'accord de Bruxelles, ou alors il peut baisser la TVA. L'État ne jette pas l'argent par les fenêtres, décrypte un expert. Il ne fait que redistribuer ce qu'il touche par ailleurs grâce aux subventions aux renouvelables.
Encore une information rassurante sur le variant Omicron, cette fois venu de l'Agence européenne du médicament. Elle n'observe que des cas légers dans les malades repérés dans l'Union européenne. Le variant touche plus l'Afrique. Les contaminations y ont bondi de 93% sur une semaine. Mais en Afrique du Sud, les hospitalisations restent peu nombreuses. La pression s'accroît tout de même sur l'hôpital en France face au variant Delta surtout. 13 000 personnes hospitalisées, 2 500 soins critiques. Le plan blanc sera probablement national d'ici à quelques jours, anticipe le ministre de la Santé. Il permet de réorganiser les tableaux de service, dans l'espoir encore de laisser souffler les soignants à Noël. La fatigue se fait sentir, y compris en médecine de ville, dans les pharmacies, sollicitées pour vacciner désormais. Le gouvernement vient de les autoriser à ouvrir le dimanche, en décembre et en janvier. Pas sûr toutefois qu'elles en aient la force les bras. Reportage Porte de Saint-Cloud à Paris, signé Béatrice Duguay.
Il a la mine fatiguée, Philippe Fermont.
Vous avez rendez-vous à midi. Vous voulez un Pfizer ou un Moderna?
Pfizer.
Allez, en plus, donne le choix. Allez, venez, je vous vaccine.
On fait total. Grippe, Covid, injection. On en fait 3, 4, 5 flacons et les tests antigéniques. On le fait avec plaisir, mais à un moment, il faut qu'on se repose. Hein. Toute l'équipe en a marre, donc...
Équipe de 8 employés sur le pont 6 jours sur 7, comme pour de nombreuses pharmacies de France, restées ouvertes en plus le dimanche, pour l'instant, c'est non.
On n'arrive pas à embaucher pour la semaine, on voit comment on peut embaucher le dimanche. Et là, déjà, on en a deux qui sont hors course, donc là, on est très très peu. Non, on n'en peut plus pas.
J'oublie les disponibilités.
Se déplace le 24 et le 31.
Voilà, 24 décembre ou 31 décembre.
Ah, super.
Si vous voulez 24, on fait 24.
Bah, oui, deux, alors pour moi, on fait ça.
Un étudiant assure les tests antigéniques dehors dans un barnum, pendant que la pharmacie, elle, ne désemplit pas.
Le matin, on arrive. Ils sont déjà, malgré qu'on ait marqué qu'on commençait à 9h, c'est déjà plein.
Et le soir ?
On est obligé d'arrêter à 7h, non ? Hier, on a refusé des gens à partir de 7h parce qu'on peut.
Le ministre de la Santé a décidé de majorer de 5 euros les vaccins du week-end, mais ça ne suffira pas à convaincre Philippe Fermont.
C'est pas une question de convaincre. Nous, on le fait parce qu'on le fait. On ne demande pas l'aumône au gouvernement. Hein. Heureusement, d'ailleurs.
Un reportage signé Béatrice Duguay.
C'est la fin de la mission de combat en Irak contre le groupe État islamique.
La coalition de 80 pays emmenée par les États-Unis était à l'œuvre contre Daesh depuis 2014. La mission de terrain est donc terminée. Les troupes américaines encore en place n'auront plus qu'une mission de formation auprès des forces irakiennes. C'est l'Irak qui l'officialise aujourd'hui. Une annonce plus politique que militaire. Lucille Wasserman est sur place.
Rassemblés sur une base militaire au centre de Bagdad, des commandants des forces américaines et irakiennes se font face pour leur troisième et dernier cycle de discussions. Objectif, officialiser la fin de la mission de combat des États-Unis en Irak. Une heure plus tard, Saad Maad, représentant du ministère de l'Intérieur irakien, annonce la nouvelle derrière un pupitre.
La coalition terminera très prochainement sa mission de combat en Irak, comme convenu, avant la fin de l'année. Le major général américain John Brennan nous a exposé quels soldats et quels équipements avaient déjà été transférés hors d'Irak.
Cette transition ne changera toutefois pas grand-chose sur le terrain. 2500 soldats américains sont déployés en Irak et ce contingent devrait rester le même au 1er janvier.
Les forces de la coalition continueront de rester présentes présente en Irak sous invitation du gouvernement, désormais pour une mission de soutien, de conseil et d'aide aux forces irakiennes.
Une annonce moins militaire que politique donc, car elle sert surtout aujourd'hui les intérêts du gouvernement irakien, alors que des factions pro-Iran multiplient les menaces dans le pays, réclamant le départ définitif des États-Unis. Bagdad, Lucille Wasserman, France Inter.
Et en France, c'est la nuit tragique du 13 novembre qui occupe la cour d'assises spéciale depuis le début du mois de septembre. Aujourd'hui, les proches, les familles des terroristes commencent à être entendus. Bonsoir Sophie Parmentier.
Bonsoir Hélène.
Le premier, c'est Yassine Abaoud, petit frère d'Abdelhamid Abaoud, qui a été entendu, qui l'est d'ailleurs encore sans doute, en visio depuis le parquet fédéral belge.
Yassine Abaoud, qui est apparu sur tous les écrans de la salle d'audience, jeune homme de 26 ans, sweatshirt à capuche blanc, main croisée, jambes qui gigotent. Bonsoir, monsieur Abaoud, salue le président de la cour. Bonjour, tout le monde, répond le frère cadet d'Abdelhamid Abaoud, quasi immédiatement sur la défensive. Il ne prononce que quelques mots spontanés. Je suis désolé pour toutes les victimes innocentes tuées dans le monde, mais sur les faits, je vais pas vous être d'une grande utilité. Par rapport à mon frère Abdelhamid, je sais rien. Et même dans notre famille, on est dans le doute, on n'a pas vu de photos de son corps. Il y a des légendes qui circulent pour dire que c'est pas lui qui a commis ces attentats. Les magistrats de la cour le confrontent à ses propres déclarations devant des policiers qui l'ont incarcéré au Maroc pour apologie du terrorisme en 2015. Je sais pas lire l'arabe, je sais pas ce que j'ai signé. Et vous étiez en contact avec votre frère Abdelhamid en Syrie, vous saviez ce qu'il faisait. Vous avez vu cette vidéo où il tractait des cadavres, il faisait pas du tourisme, insistent les juges. Je sais pas monsieur, je sais pas madame. S'obstine Yassine Abaoud face à la cour et il finit seulement par lâcher qu'il n'est pas d'accord avec Abdelhamid, qu'il décrit comme un sacré personnage. Abdelhamid qui a emmené à Raqqa leur plus jeune frère, Younes, 13 ans, qui serait mort en Syrie depuis, dit Yassine Abaoud. La famille est brisée.
Sophie Parmentier en direct du Palais de Justice avec Geoffrey Marianne. Et puis on apprend ce soir le décès de la veuve de Georges Wolinski, dessinateur de Charlie Hebdo, tué en 2015 par les frères Kouachi. Maryse Wolinski avait 78 ans, romancière, journaliste, elle avait consacré 3 livres poignants à son mari après son décès. Écoutez ces mots il y a un peu plus d'un an, alors qu'elle s'apprêtait à assister au procès des attentats de Charlie.
C'est une épreuve parce que ça va réveiller les cauchemars. On va faire à nouveau le récit de ce qui s'est passé. Moi, je l'ai imaginé. J'ai fait comme si j'étais à la place de mon mari, donc face à Chérif Kouachi, avec sa Kalachnikov. Et avec ce procès, pas facile de prendre de la distance.
Maryse Wolinski qui était au micro il y a un an de Sophie Parmentier. Allez, on va se redonner le sourire avec cette première en France. L'Agence pour l'éducation par le sport qui inaugure aujourd'hui en région parisienne le tout premier centre national d'inclusion par le sport pour reconnecter une jeunesse des quartiers avec le monde du travail. Théo Schuster l'a visité en avant-première.
C'est au beau milieu des immeubles de Garges-lès-Gonesse, juste derrière les bureaux de Pôle emploi, que Djelan Djoumbé, coach en inclusion, détecte les invisibles.
Quelqu'un de timide ou qui n'a pas l'habitude de parler avec grand monde, vous pouvez le mettre dans une salle avec plusieurs personnes, il ne va pas parler. Tu vas le mettre dans un match de foot, c'est lui qui va parler le plus. Ou dans un combat de boxe, c'est lui qui va être le plus déterminé.
À quelques mètres à peine, dans une salle de boxe qui a vu naître quelques champions de France, Nicolas a conscience que les valeurs sportives peuvent lui être d'une aide précieuse.
Ça nous entraîne à se lever tôt et il faut être à l'heure aussi. Il y a beaucoup de valeurs qu'on trouve dans le sport, qu'il y a dans le travail, la discipline, le sérieux, l'esprit d'équipe, la communication, tout ce dont on a besoin pour avancer.
Et pour avancer, Nicolas, comme beaucoup d'autres jeunes en France, peut compter dès aujourd'hui sur un tout nouveau centre en inclusion sociale par le sport. Son président, Jean-Philippe Asensi.
Notre idée, c'est de lancer des coachs partout en France, dans les collectivités, dans les fédérations, pour démultiplier ce modèle et apporter un nouveau métier, le premier de l'insertion dans le sport.
Un nouveau métier qui devrait toucher une centaine de coachs et plus de 500 animateurs à l'horizon 2022.
Et puis le sport ce soir, c'est aussi le handball, championnat du monde féminin. Les Françaises qui ont passé le tour préliminaire sans encombre affrontent ce soir la Pologne pour le premier match du tour principal.
Et merci Hélène Philly, à demain bien sûr. Nous on reste ensemble pour le téléphone sonne dans un tout petit instant. On va parler de l'état de la gauche, éclaté façon puzzle, qui cherche à se reconstituer comme elle le peut sans grand succès moins de 24 heures après la proposition d'Anne Hidalgo. On jette quand même un œil sur le ciel avant.
La météo avec les œufs de Loué. Savourez les œufs fermiers de Loué, de poules élevées en liberté. Loué, libre par nature.
Élodie Calac, un temps très agité près des Pyrénées.
Oui, des Pyrénées-Atlantiques à l'Ariège, les pluies sont parfois fortes ce soir et elles vont persister jusqu'à samedi matin. Une vigilance orange est en cours. Attention aux crues également des Pyrénées-Atlantiques vers les Landes et le Gers. C'est de la neige au-dessus de 2000 mètres sur les Pyrénées, vers 1500 mètres demain. Et puis attention au risque d'avalanche qui devient très fort sur toute la chaîne. Vigilance orange.
Et la perturbation traverse le pays cette nuit.
Avec de bonnes pluies et demain matin, on la retrouvera à l'est. Alors entre les frontières du Nord, le Nord-Est et Rhône-Alpes, il neigera parfois jusqu'en plaine dès la seconde partie de nuit prochaine. On attend quelques centimètres, jusqu'à 10 sur les premières hauteurs. Sur le nord des Alpes, beaucoup de neige. Là aussi, une vigilance orange avalanche déclenchée. Et puis l'après-midi, tout de même, l'activité baissera d'un cran. La neige remontera vers 700 mètres. Partout ailleurs, on aura un ciel changeant avec un risque d'averse. Plus d'éclaircies quand même l'après-midi entre le nord-ouest et le bassin parisien. Pour les températures, seulement moins 2 à 2 degrés dans l'est le matin. Et puis l'après-midi, 5 petits degrés à Nancy, 8 à Paris, à Lyon, 10 à Nantes et à Toulouse et 14 à Perpignan.
Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup.